Je suis l'abbé Pierre Froment. Aussitôt, elle retrouva son sourire de bienvenue. Ah, je vous demande pardon, monsieur. J'aurais dû vous reconnaître, car je vous ai vu un jour saluer Guillaume en passant. Elle disait Guillaume. C'était donc Marie. Et Pierre, étonné, la regarda, la trouvant tout à fait différente de ce qu'il se l'imaginait. Elle n'était pas grande, de taille moyenne, mais de corps vigoureux, admirablement fait. Les hanches larges, la poitrine large, avec une gorge petite et ferme de guerrière. On la sentait saine, de muscles solides, à sa démarche droite et aisée, d'une grâce adorable de femme dans sa force. C'était une brune, à la peau très blanche, coiffée d'un lourd casque de superbes cheveux noirs qu'elle nouait négligemment, sans coquetterie compliquée. Et, sous les bandeaux sombres, le pur front d'intelligence, le nez de finesse, les yeux de gaieté, prenaient une vie intense, tandis que le bas un peu lourd de la physionomie, les lèvres charnues, le menton grave, disaient sa tranquille bonté. Elle était sûrement sur la terre, avec la promesse de toutes les tendresses, de tous les dévouements. Une compagne. Mais Pierre, dans cette première rencontre, ne la voyait que trop bien portante, d'une paix trop sûre d'elle-même, avec ses épais cheveux débordants, avec ses bras magnifiques, d'une nudité si ingénue. Elle lui déplut, elle l'inquiéta, comme une créature différente qui lui restait étrangère. C'est justement mon frère Guillaume qui m'envoie. Elle changea de nouveau, redevint sérieuse, en se hâtant de le faire entrer dans le couloir. Puis, la porte refermée, « Vous nous apportez de ces nouvelles ? Je vous demande pardon de vous recevoir ainsi. Nos bonnes viennent de finir un savonnage, et je m'assurais derrière elles si l'ouvrage était bien fait. Tenez, excusez-moi encore, et veuillez entrer ici un moment. Il est peut-être préférable que je sache la première. » Elle l'avait menée à gauche, près de la cuisine, dans une pièce qui servait de buanderie. Un cuvier y était plein d'eau savonneuse, pendant que le linge, jeté sur des barres de bois, ruisselait. « Alors, Guillaume ?» Très simplement, Pierre dit la vérité. Son frère, blessé au poignet, un hasard qui l'avait rendu témoin de l'accident, puis son frère, réfugié chez lui, à Neuilly, désirant qu'on l'y laissât se guérir en paix, sans même l'y venir voir. Tout en comptant ces choses, il en suivait l'effet sur le visage de Marie. D'abord l'effroi et la pitié, ensuite un effort pour se calmer et juger sainement. Elle finit par dire « Hier soir, sa lettre m'avait glacée. J'étais certaine de quelque malheur. Mais il faut bien être brave et ne pas montrer sa peur aux autres. » Blessé au poignet, pas une blessure grave, n'est-ce pas? Non, une blessure pourtant qui va demander de grandes précautions. Elle le regardait bien en face, de ses grands yeux francs qui plongeaient dans les siens pour l'interroger jusqu'au fond de l'être, tandis qu'elle retenait visiblement les 20 questions qui se pressaient sur ses lèvres. Et c'est tout? « Il a été blessé dans un accident, et il ne vous a pas chargé de nous en dire plus long ?»« Non, il désire simplement que vous ne vous inquiétez pas. » Alors, elle n'insista plus, obéissante, respectueuse de la volonté de Guillaume, se contentant de ce qu'il envoyait dire pour rassurer la maison, sans chercher à en apprendre davantage. Et de même qu'elle avait repris sa besogne, malgré l'anxiété secrète où elle était depuis la lettre de la veille, elle retrouvait son apparente sérénité, son sourire de paix, son clair regard de vaillance dans son air de tranquille force. « Guillaume, reprit Pierre, ne m'a donné qu'une commission, celle de remettre une petite clé à Madame Leroy. » « C'est bien, répondit Marie simplement. Mère Grand est là. Et il faut d'ailleurs que les enfants vous voient, je vais vous conduire. » Tranquillisée maintenant, Elle examinait Pierre, sans réussir à cacher sa curiosité, plutôt bienveillante, avec un fond de pitié confuse. Ses bras, frais et blancs, d'une bonne odeur de jeunesse, étaient restés nus. Sans hâte, en toute candeur, elle baissa les manches. Puis, elle ôta le grand tablier bleu. Elle apparut, avec sa taille ronde, d'une élégance robuste, dans sa modeste robe noire. Il la regardait faire. Elle ne lui plaisait décidément pas, et toute une révolte montait en lui, sans qu'il comprît pourquoi, à la voir si naturelle, si saine et si brave. « Si vous voulez bien me suivre, monsieur l'abbé, il faut traverser le jardin. » Dans la maison, de l'autre côté du couloir, en face de la cuisine et de la buanderie, il y avait deux pièces. La bibliothèque donnant sur la place du tertre et la salle à manger, dont les deux fenêtres ouvraient sur le jardin. Les quatre pièces du premier étage servaient de chambre au père et aux trois fils. Quant au jardin, petit déjà autrefois, il se trouvait maintenant réduit à une sorte de cour sablée par la construction du vaste atelier qui occupait tout un coin. Pourtant, des anciens arbres, il restait deux pruniers énormes, aux vieux troncs rugueux, ainsi qu'un gros bouquet de lilas, d'une vigueur extrême, qui se couvrait de fleurs au printemps. Et Marie, devant ces lilas, avait ménagé une large plate-bande où elle s'amusait à cultiver elle-même quelques rosiers, des giroflées et des résédas. D'un geste, elle montra les pruniers noirs, les lilas et les rosiers, à peine verdis de pointes tendres, tout ce petit coin de nature endormi encore par l'hiver. « Dites à Guillaume de guérir vite et d'être ici pour les premiers bourgeons. » Puis, comme Pierre à ce moment la regardait, ses joues tout d'un coup s'empourprèrent. C'était ainsi, chez elle, de brusques et involontaires rougeurs, parfois, aux mots les plus innocents, et qui la désespéraient. Elle trouvait cela ridicule de s'émotionner de la sorte, comme une petite fille, lorsque son cœur était si brave. Mais son pur sang de femme avait gardé cette délicatesse exquise, une pudeur si naturelle qu'elle échappait à sa volonté. Sans doute, simplement, elle venait de rougir parce qu'elle craignait d'avoir fait devant le prêtre une allusion à son mariage en souhaitant le printemps. « Veuillez entrer, monsieur l'abbé. Les enfants sont justement là tous les trois. » Et elle l'introduisit dans l'atelier. C'était une très vaste salle, haute de 5 mètres, le sol pavé de briques, les murs nus, peints en gris fer. Une nappe de clarté, un bain ruisselant de tiède soleil, inondaient les moindres coins, y pénétraient par le large vitrage ouvert au midi, en face de l'immensité de Paris. Et il y avait là des claies de bois, qu'on baissait l'été afin d'amortir l'ardeur trop vive des jours brûlants. Toute la famille vivait dans cette salle, du matin au soir, en une tendre et étroite communauté de travail. Chacun s'y était installé à sa guise, y avait sa place choisie, où il pouvait s'isoler dans sa besogne. D'abord le père, qui occupait une moitié de la salle avec son laboratoire de chimiste, le fourneau, les tables d'expérience, les planches pour ranger les appareils, les vitrines, les armoires encombrées de fioles et de bocaux. Puis, à côté, Thomas, l'aîné, avait établi une petite forge, une enclume, un étau, l'outillage complet de l'ouvrier mécanicien qu'il avait voulu être, après son baccalauréat, afin de ne pas quitter son père et de l'aider, en collaborateur discret, pour de certaines applications. Dans l'autre coin, les deux cadets, François et Antoine, faisaient ensemble bon ménage, aux deux bords d'une large table, parmi un encombrement de cartons, de casiers, de bibliothèques tournantes. François, chargé de lauriers universitaires, entrait premier à l'école normale où il préparait actuellement un examen. Antoine, pris en troisième du dégoût des études classiques, envahi par la passion unique du dessin, tout entier maintenant à son métier de graveur sur bois. et devant le vitrage, sous la pleine lumière, en face de l'horizon immense, Mère Grand et Marie avaient, elles aussi, leur table de travail, des coutures, des broderies, un autre coin encore de chiffons et de délicates choses, parmi le pêle-mêle un peu rude des cornues, des outils, des gros livres, entassés de toutes parts. Mais Marie avait crié, de sa voix calme, qu'elle s'efforçait de rendre rassurante et joyeuse. « Les enfants, les enfants! Voici monsieur l'abbé qui apporte des nouvelles de père. » Les enfants! Et quelle jeune maternité elle mettait dans ce mot, en s'adressant à ces grands gaillards, dont elle s'était considérée longtemps comme la sœur aînée. Thomas, à 23 ans, était un colosse, déjà barbu, d'une ressemblance frappante avec son père, le front haut, la face solide, un peu lent de corps et d'intelligence silencieux, sauvage, presque enfermé dans sa dévotion filiale, heureux de ce métier manuel qui le changeait en un simple manœuvre, aux ordres du maître. Moins âgé de 2 ans, François était de physionomie plus fine, mais de taille presque égale, avec le même grand front, la même bouche ferme, tout un ensemble de santé et de force, où l'on ne retrouvait l'intellectuel affiné, le normalien scientifique, qu'à la flamme plus vive, plus subtile des yeux. Le dernier, Antoine, dont les 18 ans n'étaient guère moins vigoureux, aussi beau, aussi grand bientôt, différait pourtant par les cheveux blonds et les yeux bleus qu'il tenait de sa mère, des yeux d'une infinie douceur que noyait le rêve. Plus jeunes, tous les trois au lycée Condorcet, on les distinguait difficilement. Il n'était possible de les reconnaître qu'à la taille dès qu'on les rangeait par ordre d'âge. Et maintenant encore, on se trompait lorsqu'ils n'étaient pas là tous les trois côte à côte pour qu'on pût percevoir les différences qui s'accentuaient avec la vie. Quand Pierre entra, tous les trois étaient plongés en plein travail, si absorbés qu'ils n'entendirent pas la porte s'ouvrir. Et ce fut de nouveau pour lui une surprise, cette discipline, cette fermeté d'âme qu'il avait remarquée déjà chez Marie, à reprendre la quotidienne besogne, même au milieu des plus vives inquiétudes. Thomas, à son étau, limait avec soin une petite pièce de cuivre, en blouse, les mains rudes et adroites. Penché sur un pupitre, François écrivait, de sa grosse et ferme écriture, tandis que de l'autre côté de la table, Antoine, un fin burin au doigt, terminait un bois pour un journal illustré. Mais la voix claire de Marie leur fit lever la tête. « Père vous envoie de ses nouvelles, les enfants !» Et tous trois, alors, d'un même élan, lâchèrent le travail, s'approchèrent. Debout, par rang d'âge, avec leur ressemblance si grande, ils étaient comme les trois fils géants de quelque forte et puissante famille. Et du moment qu'il s'agissait du père, on les sentait tout d'un coup rapprochés, confondus, n'ayant plus qu'un seul cœur battant dans leur vaste poitrine. Mais à ce moment, une porte s'ouvrit au fond de l'atelier, et Mère Grand parut, descendant de l'étage supérieur, où elle logeait ainsi que Marie. Elle était montée y chercher un écheveau de laine, elle regarda ce prêtre, fixement, sans comprendre. « Mère Grand, dut expliquer la jeune fille, c'est monsieur l'abbé Froment, le frère de Guillaume, qui vient de sa part. » De son côté, Pierre l'examinait, étonné de la trouver si droite, si pleine de vie réfléchie et intense, à 70 ans. Dans sa face un peu longue, dont l'ancienne beauté persistait en un charme grave, les yeux bruns gardaient une flamme jeune, la bouche décolorée où toutes les dents nettes se voyaient encore, était restée du dessin le plus ferme. Quelques cheveux blancs arpentaient seuls les bandeaux noirs qu'elle portait toujours à l'ancienne mode. Et les joues avaient simplement séché, coupées de profondes rides symétriques, qui donnaient à la physionomie une grande noblesse, cet air souverain de reine-mère qu'elle conservait en se livrant aux plus humbles occupations, mince et haute dans son éternelle robe de laine noire. « C'est Guillaume qui vous envoie, monsieur, » dit-elle. « Il est blessé, n'est-ce pas ?» Pierre, surpris qu'elle devinât, conta une seconde fois l'histoire. « Oui, blessé au poignet. Oh, sans gravité immédiate. » Chez les trois fils, il avait senti comme un frémissement, une ruée de tout leur être au secours, à la défense du père. Et c'était pour eux qu'ils cherchaient des paroles de bon espoir. « Il est chez moi, à Neuilly. Avec des soins, aucune complication grave ne se produira, certainement. Il m'envoie pour vous dire que vous soyez sans aucune inquiétude. » Mère Grand ne laissait pas paraître la moindre crainte. Très calme, elle avait semblé ne rien apprendre qu'elle ne sût déjà. Même, elle paraissait soulagée, hors de l'angoisse qu'elle n'avait dite à personne. « S'il est chez vous, monsieur, il est évidemment le mieux du monde, à l'abri de tout danger. Sa lettre d'hier soir, sans explication sur la cause qui le retenait, nous avait surpris et nous aurions fini par nous en effrayer. Tout va très bien maintenant. » Et pas plus que Marie, Mère Grand ni les trois fils ne demandèrent des explications. Sur une table, Pierre venait d'apercevoir des journaux du matin, jetés là, grands ouverts, avec leurs renseignements débordant sur l'attentat. À coup sûr, ils avaient lu. Ils avaient craint que leur père ne fût compromis dans l'affreuse aventure. Que savait-il, au juste? Il devait ignorer Salvat. Il ne pouvait reconstituer l'enchaînement imprévu des circonstances qui avaient amené la rencontre, puis la blessure. Mère Grand, sans doute, était au courant de plus de choses. Mais eux, les trois fils, ainsi que Marie, ne savaient rien, ne se permettaient de rien savoir. Et alors, quelle force de respect et de tendresse, dans leur inébranlable confiance au père, dans leur tranquillité, dès qu'il leur faisait dire qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter de lui. « Madame, reprit Pierre, Guillaume m'a prié de vous remettre cette petite clé, en vous rappelant de faire ce dont il vous a chargé dans le cas où il lui arriverait malheur. » Elle eut à peine un léger tressaillement en prenant la clé, et simplement elle répondit, comme s'il se fût agi du vœu d'un malade le plus ordinaire du monde, « C'est bien, dites-lui que sa volonté serait faite. Mais veuillez donc vous asseoir, monsieur. » En effet, Pierre était resté debout. Il dut accepter une chaise, malgré sa gêne persistante, désireux de ne pas la laisser voir dans cette maison où, en somme, il se trouvait en famille. Marie, qui ne pouvait vivre sans occuper ses doigts, venait de se remettre à une broderie, un de ces fins travaux d'aiguille qu'elle s'entêtait à faire pour une grande maison de trousseaux et layettes, voulant au moins, disait-elle en riant, gagner son argent de poche. Par habitude aussi, même quand il y avait là des visiteurs, Mère Grand avait repris l'éternel raccommodage de bas pour lequel elle était montée chercher de la laine. Et François, ainsi qu'Antoine, retournés tous les deux devant leur table, s'étaient de nouveau assis, tandis que Thomas, seul debout, s'appuyait contre son étau. C'était comme une courte récréation qu'ils s'accordaient avant d'achever leur tâche. Une grande douceur d'intimité laborieuse s'épandit dans la vaste salle ensoleillée. « Mais, dit Thomas, nous irons tous voir père demain. » Marie, vivement, sans laisser Pierre répondre, leva la tête. « Non, non, il défend que personne d'ici aille le voir, car si nous étions surveillés et suivis, ce serait livrer sa retraite. N'est-ce pas, monsieur l'abbé ?» En effet, il sera prudent de vous priver de l'embrasser jusqu'à ce que lui-même puisse revenir. C'est une affaire de 2 ou 3 semaines. » Mère Grand approuva tout de suite. « Sans doute, rien n'est plus sage. » Et les trois fils n'insistèrent pas, acceptant la secrète inquiétude où ils allaient vivre, renonçant bravement à cette visite qui leur aurait causé tant de joie, puisque tel était l'ordre du père, et puisque son salut peut-être en dépendait. « Monsieur l'abbé, reprit Thomas, Veuillez lui dire alors que pendant son absence, du moment que les travaux vont être interrompus ici, je compte retourner à l'usine, où je suis plus à l'aise pour les recherches qui nous occupent. Et veuillez lui répéter aussi de ma part, dit François à son tour, qu'il ne se préoccupe pas de mon examen. Tout va très bien, je crois être sûr du succès. Pierre promit de ne rien oublier. Mais avec un sourire, Marie regardait Antoine, qui était resté silencieux, les regards perdus. « Et toi, petit, tu ne lui fais rien dire ?» Le jeune homme, comme s'il redescendait d'un rêve, se mit également à rire. « Si, si, que tu l'aimes bien et qu'il revienne vite pour que tu le rendes heureux. » Tous s'égayèrent, Marie elle-même sans gêne aucune, dans une tranquille joie, dans la certitude de l'avenir. Il n'y avait là, entre eux et elle, qu'une affection heureuse. Et Mère Grand, de ses lèvres décolorées, avait souri gravement, elle aussi, approuvant le bonheur que la vie semblait leur promettre. Pierre voulut rester quelques minutes encore. On causa, et son étonnement augmentait. Il était allé de surprise en surprise dans cette maison où il s'attendait à trouver la vie louche et déclassée, le désordre, la révolte destructive de toute morale. Et il tombait dans une sérénité tendre, dans une discipline si forte qu'elle mettait là une gravité, presque une austérité de couvent, tempérée de jeunesse et de gaieté. La vaste salle sentait bon le travail et la paix, tiède de clair soleil. Mais ce qui le frappait surtout, c'était la forte éducation, cette bravoure des esprits et des cœurs, et ses fils qui, sans rien laisser voir de leurs sentiments personnels, sans se permettre de juger leur père, se contentaient de ce qu'il leur faisait dire, attendaient les événements, stoïques, muets, en se remettant à leurs tâches quotidiennes. Rien n'était ni plus simple, ni plus digne, ni plus haut. Et il y avait encore l'héroïsme souriant de Mère Grand et de Marie, qui toutes les deux couchaient au-dessus du laboratoire où se manipulaient les plus terribles poudres dans le continuel danger d'une explosion toujours possible. Mais ce courage, cet ordre, cette dignité ne faisaient que surprendre Pierre, sans le toucher. Il n'avait pas lieu de se plaindre, l'accueil était correct, sinon tendre, car il n'était encore là qu'un étranger, un prêtre. Et malgré tout, il restait hostile, soulevé par cette sensation qu'il avait de se trouver dans un milieu où pas une de ses tortures ne pouvait être partagée, ni même soupçonnée. Comment s'arrangeaient-ils donc ces gens pour être si calmes, si heureux dans leur incroyance religieuse, leur unique foi à la science, en face de ce terrifiant pari qui étalait devant eux la mer sans bornes, l'abomination grondante de ses injustices et de ses misères. Il tourna la tête, il le regarda par le large vitrage, d'où il apparaissait à l'infini, toujours présent, toujours vivant de sa vie colossale. À cette heure, sous le soleil oblique de l'après-midi d'hiver, Paris était ensemencé d'une poussière lumineuse, comme si quelque semeur invisible, caché dans la gloire de l'astre, eût jeté à main pleine ses volées de grains, dont le flot d'or s'abattait de toutes parts. L'immense champ défriché en était couvert, le chaos sans fin des toitures et des monuments n'était plus qu'une terre de labour, dont quelques charrues géantes avaient creusé les sillons. Et Pierre, dans son malaise, agité quand même d'un besoin, d'invincible espoir, se demanda si ce n'étaient pas là les bonnes semailles. Paris, ensemencé de lumière par le divin soleil, pour la grande moisson future, cette moisson de vérité et de justice dont il désespérait. Enfin, Pierre se leva et partit, en promettant d'accourir si les nouvelles devenaient mauvaises. Ce fut Marie qui l'accompagna jusqu'à la porte de la rue. Et là, Brusquement, elle fut reprise d'une de ces rougeurs de petite fille qui l'ennuyait tant. Elle s'empourpra lorsqu'elle voulut, elle aussi, envoyer son mot de tendresse au blessé. Mais bravement, elle prononça le mot, les yeux gais et candides, fixés sur ceux du prêtre. « Au revoir, monsieur l'abbé. Dites à Guillaume que je l'aime et que je l'attends. »